Alors bonjour à tous, bienvenue à l'endroit où vous saurez tout sur l'Uchronie, même ce que vous n'avez jamais osé demander. Grâce au guide de l'Uchronie ici présent, un petit guide très très grand, il est plus grand à l'intérieur qu'il n'a l'air à l'extérieur. Avec les deux auteurs donc, qui sont ici présents et qui m'ont fait l'amitié de venir aux Utopiales, donc Bertrand Campéis et Karine Gobled, tous les deux évidemment spécialistes de l'Uchronie. Le premier secrétaire du prix ActuSF de l'Uchronie depuis 2011, la deuxième membre du jury aussi, et ils ont concocté ensemble un guide absolument génial à mon avis, à la fois très accessible et complet et clair et ludique en plus, je trouve aussi, sur l'Uchronie sous toutes ses formes. Et même s'il y a déjà eu des tables rondes aujourd'hui sur l'Uchronie, même s'il y a eu déjà des tas de choses qui ont été dites sur l'Uchronie, même s'il y en aura encore peut-être tout à l'heure avec la table ronde autour de l'œuvre de Silverberg, qui a été aussi l'un de ceux qui a fait des Uchronies en assez grand nombre d'ailleurs dans son œuvre, j'ai voulu vraiment une rencontre qu'avec eux deux autour du guide. C'est pas une table ronde et c'est pas une rencontre promotionnelle, hein, c'est pas pour vous dire achetez le guide, parce que j'espère que vous l'avez déjà acheté. Sinon, ça prouve que vous vous intéressez pas à l'Uchronie. Hein, donc voilà. Donc c'est vraiment pour aller sur l'Uchronie. Qu'est-ce que l'Uchronie? Quelle est la place de l'Uchronie aujourd'hui dans les productions de l'imaginaire? Pourquoi faire de l'Uchronie, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché. Donc ce que je vous propose, c'est vous donner un micro. Voilà, je le donne à ce monsieur qui est là, qui le fera passer. Allez-y, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va un petit peu partir avec une présentation un peu plus standard. Mais on va essayer d'éviter la table ronde habituelle, etc., la rencontre voilà, un peu statique. On va vous donner la parole le plus rapidement possible. Donc tous ceux qui ont des questions sur l'Uchronie, le micro est entre les mains de monsieur, donc jetez-vous sur lui pour le lui prendre et poser des questions. Est-ce que ça vous va à tous les deux? Hein, très bien. Alors on va s'asseoir aussi, je vais m'asseoir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser avec ce guide... Il y avait déjà eu évidemment pas mal d'ouvrages sur l'Uchronie, l'histoire revisitée d'Éric Henrier, il y a un travail notamment de André-François Ruault aussi sur l'Uchronie, il y a pas mal de publications, et si on refaisait l'histoire notamment de Dalméda sur l'Uchronie, il y a beaucoup de publications sur l'Uchronie, mais c'est la première fois que j'ai, voilà, à titre de passionné, hein, moi aussi, que j'ai un format bien particulier, un guide bien particulier, à la fois compact et très dense. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel était votre but en proposant ce projet, j'imagine, aux éditions ActuSF? Était-il vraiment voilà, d'arriver à ce guide-là, qui est à la fois très mobile, très nomade, etc.? Est-ce que c'était un guide de lecture? Est-ce que c'était une volonté aussi pédagogique d'expliquer le rôle, la place de l'Uchronie dans l'imaginaire? Comment s'est construit la première, comment s'est fait la première étape de ce guide? Alors peut-être Karine, pour commencer, voilà. Vas-y.
Alors ce guide, il vient... Ça fonctionne ? Oui. Ce guide, il vient d'une frustration à la base. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, à lire des uchronies, personne ne m'a dit « ceci est une uchronie ». Et quand j'ai compris ce que c'était qu'une uchronie, et que j'ai commencé à en lire beaucoup, je me suis dit « il faut que les gens sachent ce qu'est l'uchronie ». Sans avoir un essai... Alors les essais d'Éric Henrier sont absolument extraordinaires, mais ils sont très complets, ils sont très, très scientifiques. Et moi, je voulais quelque chose de très accessible pour le néophyte. C'est-à-dire, venez, voici un petit guide de voyage en territoire uchronique, venez, amusez-vous. Voilà. Et d'où ce côté aussi ludique.
D'accord, donc le côté ludique, vraiment pour... Alors effectivement, c'est comme ça qu'on le perçoit la première fois, avant d'entrer dedans. Hein. Avant d'entrer dedans, effectivement, moi je trouve que c'est exactement... Donc c'est une parfaite réussite. C'est vraiment un guide ludique, un guide léger, un guide presque, on pourrait presque parler de vulgarisation de l'Uchronie, si l'Uchronie voilà, est une science. Si l'Uchronie était une science, eh bien vous avez là la vulgarisation, ou plutôt, pour prendre le mot américain, la popularisation la plus aboutie, la plus efficace que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être donner la parole quand même à Bertrand pour voir s'il confirme ou il infirme quel était le... Voilà, quel était le but poursuivi? Est-ce que c'était bien ça, vraiment, comme pour Karine, le côté ludique, le côté...
Oui.
Ok, je vois que Bertrand est quelqu'un qui parle beaucoup et j'adore les défis, c'est super. Donc Bertrand, ce oui cache-t-il quelque chose d'autre?
Oui.
Ok. Alors, bon, c'est un guide, ok. Derrière, maintenant, il y a quand même une réflexion. Il y a quand même, je trouve, une maturation qui déjà prouve quelque chose à mes yeux, qui est très important, c'est que l'Uchronie n'est plus une étrangère. L'Uchronie n'est plus un espèce de greffon sur la science-fiction française contemporaine. Quand j'ai commencé, moi, à être acteur du milieu de la science-fiction, faire de l'Uchronie, c'était rigolo, c'était un peu érudit, c'était un peu se distinguer. On se demandait, la plupart du public se demandait, mais au fond, à quoi ça, pourquoi font-ils ça ? Ils font ça pour se réfugier parce qu'ils ne comprennent plus la réalité. Et donc, du coup, ils n'arrivent plus à l'expliquer par la science-fiction. Donc, hop, réflexe, repli identitaire dans l'histoire, etc. Et ils vont chercher un vieux genre littéraire, un vieux genre spéculatif qui remonte au 19e siècle et qui finalement... voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. On sait que l'Uchronie est l'un des éléments les plus vivaces de la production littéraire européenne et française. Et votre guide l'atteste. Le simple fait, pour moi, que le guide existe, c'est que l'Uchronie a regagné ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, dans l'Uchronie, vous allez retrouver d'excellents auteurs d'imaginaire, d'excellents auteurs de science-fiction. Et puis, vous allez retrouver la quintessence du genre, qui est l'interrogation sur l'histoire, sur la réalité, sur la profondeur historique qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, la simple existence du guide est une excellente nouvelle, mais aussi le signe d'un changement des temps, d'un changement de regard sur l'Uchronie. Alors, moi j'ai plein de questions, j'en ai à peu près 250, mais je pense que le public en a aussi. Alors, est-ce qu'il y a une première question dans le public sur peut-être la définition de l'Uchronie ? Qui connaît la définition de l'Uchronie ? Levez la main. Pas mal. Qui a lu le guide déjà ? Levez la main. Pas mal. C'est pas forcément les mêmes qui connaissent la définition que ceux qui ont lu le guide. C'est très bizarre. Alors, qui veut proposer une question ou une première définition ? Allez-y. Tenez, faites-lui passer le micro. Ok.
Bonsoir. Bonsoir. Peut-être une question pour essayer d'approcher la définition. Lors d'une précédente table ronde, on a posé la question, c'est est-ce que l'Uchronie fait partie de la science-fiction ? Et quelqu'un a dit non, c'est l'inverse. C'est la science-fiction qui fait partie de l'Uchronie, parce que la science-fiction, c'est l'Uchronie du futur. Alors voilà, est-ce que ça, c'est une définition de l'Uchronie selon vous ?
Allez, on y va. À vous de répondre.
Alors, moi, j'ai une petite phrase. Pour moi, l'Uchronie...
Juste une question. Vous l'entendez bien ? Oui ?
Ouais, pas trop.
D'accord.
Ça va mieux comme ça ? Voilà. J'ai pas l'habitude de parler au micro, je suis désolée. Donc j'ai une petite phrase qui est toute simple, c'est que l'Uchronie c'est la fille de l'histoire adoptée par la science-fiction. Voilà, pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une frontière, la science-fiction, qu'est-ce que la science-fiction ? C'est déjà très difficile à circonscrire, la frontière de la science-fiction. Et l'Uchronie c'est un procédé littéraire. Et comme c'est un procédé, c'est transgenre, transmédia, trans-tout. C'est-à-dire que ça peut être du roman historique, ça peut être du roman policier, ça peut être de la science-fiction. Donc il n'y a pas d'étiquette précise là-dessus. Donc pour moi, l'Uchronie est-elle de la science-fiction ? Oui, ça peut être de la science-fiction, ça peut être du policier, ça peut être du roman historique. L'Uchronie, elle est partout, tout simplement. Donc elle est en ça, elle est un petit peu supérieure à tous les autres genres, je dirais.
Oui, je suis bien d'accord par ailleurs, et ceux qui ont dit l'inverse ont tort. Et qu'ils viennent ici, on les attend de pied ferme. Autre question ? Ou autre moi, j'aimerais bien que quelqu'un propose une définition de l'Uchronie. Mais allez-y, posez votre question. Allez-y.
Moi, je me demandais, en fait, la première œuvre uchronique, selon vous.
Ah, voilà, ça, c'est une très bonne question. Merci. Très pédagogique. Allons-y.
Alors, techniquement, vous en avez deux qui sont sorties au milieu du 19e siècle et qui sont toutes les deux françaises. La première œuvre uchronique au monde est de Louis Geoffroy Chateau. Ça s'appelle « Napoléon apocryphe ». Ou comment Napoléon a conquis le monde 1812, je dirais 1830. C'est une œuvre qui a connu plusieurs incarnations. Tout d'abord, c'est sorti dans mes souvenirs en feuilleton. Ensuite, il a fait une première édition, puis une édition remaniée, où il a rajouté pas mal de choses. Alors, contrairement à ce qui a été dit sur une autre table ronde dont je ne citerai pas le nom, l'œuvre n'a pas forcément vocation à être une œuvre de pure propagande à la gloire du régime bonapartiste. Elle a été écrite, si je dis pas de bêtises, effectivement, parallèlement par un nostalgique du pouvoir impérial, mais le père de l'auteur avait joué un rôle dans le régime impérial. Le fiston, lui, a été marqué par ça. Et si on regarde l'œuvre, c'est à la fois, je dirais, un roman d'aventure, c'est une œuvre totale, hein, pour ainsi dire. C'est un roman d'aventure, c'est une uchronie, ça introduit certains des paradigmes de l'uchronie, que ce soit le point de divergence, la mise en abîme uchronique, le fait que l'action ensuite peut se situer nettement en décalage par rapport à ce point de divergence. Genre au lieu de raconter finalement le point de divergence au moment vécu, vous faites un bond dans le temps et celui-ci intervient plus tard. C'est pas réellement le cas là, vu qu'on suit en fait toute la chronologie de l'histoire de Napoléon. Celui-ci imagine, en fait, il ne rentre pas dans Moscou en flammes en 1812. L'incendie commence avant que l'armée arrive. Décide de replier son armée à Saint-Pétersbourg pour y passer l'hiver. Et ensuite, fout une raclée monumentale aux troupes russes. Et après, se dit qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et décide d'aller conquérir le monde. Donc ça, c'est le point de divergence. Vous avez une mise en abîme d'un point de vue chronique, c'est qu'après la conquête de l'Australie, parce qu'on n'est pas des petits joueurs quand même, en revenant, il passe au large d'une île qui s'appelle Sainte-Hélène. Il stoppe, il regarde l'île, il rentre dans sa cabine, il est furibard, personne ne comprend pourquoi. Il en sort 3 jours après et il déclare « Vous me trouvez toute la poudre à canon que vous voulez, vous faites sauter l'île ». Donc là, il y a vraiment un choc au niveau du reste de l'équipage. On ne comprend pas la scène. Nous, lecteurs provenant d'un autre monde, on rigole beaucoup. Autre mise en abîme uchronique, il y a un bouquin qui circulerait déclarant justement, racontant la chute de l'Empire. Donc du coup, c'est une œuvre pamphlétaire se moquant du régime, ce qui est nettement moins apprécié. Et à la fin, quand on y regarde bien, bah, le régime impérial tel qu'il est décrit, on a l'impression de tomber sur un monde à 1984. Donc je dirais que c'est à la fois une œuvre nostalgique, montrant bien quand même les grandes cavalcades impériales, les grandes victoires, etc., etc. Et on évacue tout le côté la boue, les morts et le côté, pour ainsi dire, très très concentré au niveau du pouvoir dans une seule personne qui estime qu'elle a raison quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même de la part de l'auteur le fait qu'il montre que c'était pas si joli que ça si on y regardait bien. Et la deuxième œuvre uchronique qui a vraiment donné son nom en genre, c'est Charles Renouvier. C'est Uchronie, ou histoire de... Enfin, j'allais dire, c'est chronique de l'histoire telle qu'elle aurait pu arriver. Là, on tombe vraiment sur le thème principal, à savoir un mot forgé à partir d'utopie. Donc utopos, c'est un lieu qui n'existe pas, et Uchronie, un temps qui, lui, n'existe pas. Alors le gros souci de l'œuvre de Renouvier, qui est très belle, qui joue avec les notions de liberté et autres, c'est qu'elle a très mal vieilli d'un point de vue lecture, à tel point que, ça pareil, j'ai toujours ma petite anecdote, Éric Vial, je crois, on avait fait une critique en déclarant que ça devait être une des œuvres qu'on lisait à voix haute dans un des cercles de l'enfer pour l'éternité auprès des damnés. Ça vous donne un peu une idée du genre.
Je confirme, elle a considérablement vieilli, mais quand même, elle reste fascinante. En plus, on retrouve Marc Aurèle, enfin, on retrouve pas mal d'éléments dans l'imaginaire lié à l'Empire romain. Donc, 1836 pour donc la première, et la deuxième, 1857, et puis reprise ensuite en 1876. Donc, deux Français. Donc, Cocorico, l'Uchronie est une invention française, en tout cas au moins l'Uchronie telle qu'on la conçoit aujourd'hui au XIXe siècle, de l'histoire telle qu'elle aurait pu être, telle qu'elle n'a pas été. Il y a aussi, il me semble, dans la naissance de l'Uchronie, Joseph Méry, vous le citez en troisième. Ça, c'est une Uchronie dont on parle moins. Hein, quelques mots peut-être sur celle-là. Est-ce qu'elle est moins illisible que l'autre?
Elle est beaucoup moins illisible. En plus, elle a eu la chance d'être rééditée en numérique avec un petit appareil critique. Alors, j'arrive plus à me souvenir.
Chez Publinet.
Oui. Alors là, par contre, pour le coup...
Collection Archéo-SF.
Pour le coup, vous tombez sur une œuvre profondément nostalgique. À part d'un des points sur lequel Napoléon s'est attardé, Napoléon ayant beaucoup de temps à perdre finalement à Sainte-Hélène, s'est amusé, entre guillemets, déjà à réécrire un peu l'histoire à son avantage dans le mémorial de Sainte-Hélène, dicté au pauvre Las Casas qui n'en demandait certainement pas tant, et s'est arrêté de manière assez, j'allais dire, amusante pour nous sur certains détails de sa vie en disant, ah ben tiens, si c'était passé comme ça, ça aurait été autrement. Et lui, il y a eu une défaite, c'est 1799, Saint-Jean d'Acre, où il est tombé sur une tour finalement remplie de canons qu'on n'a jamais réussi à prendre. Ça a été une boucherie, mais alors absolument fantastique. Et Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, devant le truc, on aurait déclaré c'est la tour du destin. Il dit le destin du monde s'est joué là. Si cette tour était tombée, finalement mon histoire était autre. Ce qu'il faut savoir, René Grousset en parle dans son œuvre Figure de proue, qui est une étude sur les grandes figures historiques datant de 1937. Il parle de cela. Napoléon était parti avec une idée bien précise. Lui, il rêvait d'être Alexandre. Et René Grousset a justement une très très belle phrase en disant « Napoléon fut César parce qu'il ne put devenir Alexandre ». Napoléon, son rêve, c'était de reconstituer un immense empire justement en Orient parce qu'il estimait que l'Occident lui était coupé. Quand on y songe, ça a échoué. Il n'a pas réussi finalement, faute de flotte, faute d'accord, faute de bataille suffisamment gagnée pour pouvoir rallier des troupes et se reconstituer un empire tel qu'il aurait voulu. Donc il est revenu un peu chez nous. Mais là, on tombe sur une espèce d'obsession en disant bah, « Tiens, à tel moment, l'histoire aurait pu jouer. » Et toute cette nouvelle de Joseph Méry tourne ça. Là, on tombe vraiment sur le côté nostalgique, voire même, je dirais, sur le côté des futures uchronies à but militaire.
Oui, oui.
On a énormément de détails,
c'est une nouvelle,
techniques
hein,
et autres.
C'est juste une nouvelle.
C'est une nouvelle A,
c'est
je dirais.
Une nouvelle A, ouais, d'accord. Ok. Bon, vous voyez, Bertrand, c'est bien. Hein. Bertrand, quand on le lance, soit il dit oui et il se tait, soit il parle et il nous raconte toute l'histoire de l'Uchronie. C'est génial. Alors, Karine, il ne faut pas se laisser faire attention. Hein. Vous êtes là tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ben voilà. Le monsieur qui avait le micro au début. Bien joué. Ah, oui. Si vous aviez posé la première question, la table ronde aurait été différente. Eh oui.
Certes.
Alors, on y va.
J'aurais voulu savoir s'il y a un lien au niveau littéraire entre les wargames et l'Uchronie, dans le sens que les wargames, d'un point de vue militaire, ça consiste à dire eh ben, on va refaire la bataille, puis on va regarder si c'était Napoléon qui pouvait gagner, si c'était les nazis qui pouvaient gagner, etc. etc.
Allez-y. Le lien avec le militaire. Oui.
Alors, l'histoire militaire a une longue tradition uchronique. Toute bataille que l'on refait automatiquement le sera légèrement. Ça va pas forcément. On ne va pas suivre le même plan. C'est moins rigolo. Et j'allais dire, quand on regarde certaines batailles perdues, le plus grand délice pour un wargamer, c'est justement de pouvoir prendre le camp des vaincus et changer l'histoire. C'est un peu traité d'une très belle manière, d'ailleurs, par Pierre Bordage dans son diptyque sur Wang, avec les jeux uchroniques. C'est peut-être le seul élément uchronique, d'ailleurs, dans le roman, où on fait jouer, finalement, des peuplades issus du tiers-monde dans des jeux dits historiques où on les fait jouer ben, un coup les Américains contre les Indiens. Et dans le cas d'un des jeux, il y a une bataille qui est jouée entre les Gaulois et les Romains et c'est les Gaulois qui l'emportent. Donc ça, on réécrit littéralement l'histoire. Les Wargamers, oui, vous avez toujours un cortège de règles systématiquement pour pouvoir montrer à la fois le poids de l'histoire mais aussi d'autres règles annexes qui vont se greffer pour pouvoir dire bah écoutez, pour éviter que ça se termine réellement comme ça, on vous propose tel ou tel système pour pouvoir mettre en place une possibilité uchronique. Et vous avez, là pour le cas c'est la cerise sur le gâteau, des wargames purement uchroniques. Donc oui, il y a une concomitance. Et surtout, mais là on rentre dans le domaine anglo-saxon, il y a énormément d'historiens anglo-saxons, là-bas je dirais c'est presque une tradition, qui écrivent soit des nouvelles, soit des essais à caractère uchronique sur des batailles. Moi, j'ai toute une série de bouquins provenant de Green Hill Books qui imaginent, enfin pour les Américains, c'est des sujets bien spécifiques, si on avait gagné au Vietnam, si la bataille des Ardennes s'était passée différemment, et ainsi de suite. Alors ça peut être soit des nouvelles finalement très très littéraires, soit des trucs mais alors, super techniques, vous avez intérêt à être vraiment calé en histoire militaire, ou comme disait Eric Henriet en me disant toujours, Bertrand c'est le seul mec qui va être capable de vous dire qu'un Stuk 3, bon, celui-là c'est un type B parce que le type de chenille est et la roue est différente du type A qui a été construit qui a 15 exemplaires. Bah là, ça s'adresse à ce type de public.
Oui, c'est assez ciblé hein, quand même. Ouais.
On en a quand même en France. Hein. On a 1940, c'est si la guerre avait continué, oui. En deux tomes, avec 1941, 1942, et c'est pas fini. Et là, effectivement, c'est très, très sérieux. On perd cette dimension ludique pour rentrer dans la dimension historique, recherche historique pure et véracité presque scientifique de l'histoire. Hein.
Oui, d'ailleurs, ça pose la question de quoi est faite l'histoire, comme vous le rappelez bien dans l'introduction, hein, je saisis l'occasion de le dire. L'Uchronie, en interrogeant l'histoire, qu'elle soit donc militaire, économique ou politique, a la faculté de mettre à l'épreuve notre réalité. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Qui l'a fait? La classe politique? Où existe-t-il une convergence morale, globale, etc.? Au fond, à travers l'Uchronie et les modalités de l'Uchronie, on revient sur la question de qu'est-ce que l'histoire? Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je l'apprécie tout particulièrement, parce que interroger... les mécanismes de construction du discours historique, ça se fait très très bien à travers les uchronies, qui sont un parfait outil pédagogique pour faire ça, justement. Ok, autre question. Ah, allons-y.
Oui, je suis très heureux que vous ayez mentionné Pierre Bordage avec le diptyque Wang. Okay. Parce que j'ai appris l'existence de l'uchronie par ce roman. Et ça m'a beaucoup bouleversé, ça m'a beaucoup touché. Et du coup, je suis allé voir la définition. Donc, après, j'ai du mal à. Enfin, voilà, il y a vraiment l'association Chronos et Topos qui sont très présentes en moi aussi. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est comment on peut avoir une approche uchronique dans la science-fiction sans avoir une approche utopique ? Est-ce que on n'a pas une démarche incomplète ? Du coup,
alors,
en partant du principe aussi que si quand nous on existe, on est dans un lieu, donc le topos, et qu'on traverse le temps, donc on est dans le chronos. Donc c'est comme si je focalisais sur le temps sans être concentré sur la position, quoi, sur laquelle je suis.
C'est une question relativiste. Attention.
Oui, alors c'est effectivement.
J'appelle Roland Lehoucq, ouais, peut-être. Ouais,
ouais. C'est ça, il va nous faire un cours, il va nous expliquer l'espace-temps, comment ça fonctionne et pourquoi.
J'ai une autre question, définissez histoire. Voilà, je reviens dans 3 heures.
Oui, définissez histoire, ça va être difficile. Moi je profite, hein, je vous réponds, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, moi je pense que l'uchronie est toujours une forme d'utopie aussi. Mais voilà, mais c'est juste. Hein, voilà. Bon.
Forcément, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que l'uchronie telle qu'on l'écrit, même si on la rêve, même si on aimerait bien qu'elle existe, ou en tout cas on spécule, elle n'existe pas. Concrètement, elle ne peut pas exister. Il n'y a qu'une réalité historique, c'est celle qu'on a vécue. On peut la retranscrire de manière différente, mais il y a quand même un continuum de faits. On peut la voir. Ce qui est intéressant sur l'uchronie, c'est qu'elle va interroger la façon dont on raconte l'histoire aussi, dans la façon dont on écrit, dont on la perçoit. Donc ça permet de remettre en perspective aussi les événements historiques, mais effectivement ce qui est fait ne peut pas être défait, donc forcément ça reste de l'utopie. Après ça peut être de la dystopie aussi, parce qu'on peut très bien imaginer une uchronie où tout est catastrophique, hein. Quand on dit le Troisième Reich, la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par Hitler, c'est pas un avenir gay, quoi. C'est pas un passé non plus gay. Quand on prend le maître du Haut-Château, c'est très violent, c'est violent pour les Japonais, c'est violent pour les Américains, c'est violent pour tout le monde. Voilà. Donc c'est de la dystopie. Alors utopie, dystopie, forcément. Donc effectivement, j'aurais du mal à dire que non, ce n'est pas de l'utopie, ça fonctionne pas. Pour moi, ça reste de l'utopie.
Pas d'autres commentaires ? Pas d'autres, non ? Ok. C'est bien, c'est assez. En plus, des questions assez variées, vous êtes nombreux, donc allons-y. Ça vous va toujours, vous, les questions comme ça ? Oui, très
ça
bien.
Nous va.
Super. Super. Votre. Très bien.
Bonjour.
Oui ?
Bonjour.
Moi, j'avais une question, c'était plus par rapport à la science-fiction, dans le sens où. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'uchronie dans la science-fiction, surtout quand on parle d'anticipation, vu que c'est des choses qui ne sont pas encore passées et qu'on invente, en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre l'anticipation et l'uchronie ?
Alors, il y a un lien sur En fait, l'uchronie, c'est prendre. On prend un point de divergence, on fait basculer l'histoire. Après, ça dépend du regard qu'on porte. Si on porte un regard très proche du point de divergence, on va se retrouver dans le passé. D'accord ? Si on porte un regard très loin du point de divergence, on va se retrouver dans le futur. Et là, la frontière se brouille aussi avec l'anticipation. Là-dessus. Mais donc effectivement, la science-fiction, elle va plus loin. Généralement, elle prend le procédé uchronique et elle se pose pas de questions. Les auteurs de science-fiction sont très imaginatifs et ils décident de mettre le regard où ils veulent. Ils peuvent le mettre au 24e siècle, au 32e siècle. Ils peuvent le mettre après la conquête spatiale, avant la conquête spatiale. Voilà, ils sont pas tournés vers le passé. Ils sont tournés aussi vers le futur et un futur possible qui serait un futur uchronique et qu'on aura du mal nous à distinguer. D'un futur possible, puisque le point de divergence, on le connaît, certes, mais on ne connaît pas notre futur. Donc on a du mal à comparer notre ligne temporelle, notre futur, au futur qui est proposé et qui est un futur uchronique. Je suis claire ?
Très claire.
Très bien, on continue. Moi, j'ai...
Je peux rajouter un truc ?
Oui, bien sûr.
Il y a une... vu qu'on parle de futur, il y a une série de BD, Les Brigades du Temps. Oui. Écrite par un certain Chris, que je salue, et dessinée magnifiquement bien, avec des gros nez, par Bruno Duhamel. Ça se situe dans le futur. En fait, là où c'est intéressant, c'est dans un futur lointain où on observe l'histoire et en fait une espèce de groupe inconnu intervient pour modifier l'histoire. La première histoire, qui était un diptyque, en fait, Christophe Colomb meurt en découvrant littéralement la première île de ce qu'il considère être l'Amérique. Donc à partir de là, l'histoire a changé. Et on expédie en fait des équipes dans le passé pour essayer de remettre l'histoire, tant bien que mal, sur des rails que l'on connaît à peu près. Sauf qu'on ne peut pas forcément modifier. L'histoire, du coup, a connu un embranchement. On ne peut pas revenir finalement dans le passé pour empêcher la mort de Christophe Colomb. Et ils ont fait une deuxième histoire en un tome très très belle sur l'attaque de Pearl Harbor. Ou même chose, l'attaque est en train d'être modifiée ou essaye de la remettre tant bien que mal finalement sur les rails. Donc vous avez un futur généralement qui essaye d'influencer finalement le passé. C'est vu également dans le roman La Brèche de Christophe Lambert, où sous prétexte de télé-réalité, on expédie finalement un reconstitueur et un photographe de guerre pour filmer le débarquement. Et ils vont se retrouver en conflit avec deux futurs alternatifs, hein, le nôtre, et un autre où c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Et les deux, du coup, vont combattre. Alors, on est à la fois à la frontière de l'Uchronie et de l'histoire secrète, parce que chacun va expédier, ayant un tunnel finalement temporel ouvert pendant une durée limitée, vont envoyer leur technologie pour modifier la donne. Donc, d'un côté, les nazis vont expédier des exosquelettes de combat, et de l'autre côté, on va envoyer des drones surarmés. Et le truc, c'est finalement... On modifie l'histoire ou est-ce qu'on essaye de l'amener qu'à un cas vers la réalité que nous connaissons et ensuite on efface toute trace d'intervention parce que sinon les gens vont se poser des questions. Il y a un clin d'œil très savoureux à la fin où l'un des types déclare, un Allemand écrit ce qu'on considère être de la science-fiction en disant « J'ai vu des robots de combat géants détruits par des espèces d'avions sans pilote qui tiraient des missiles, qui se téléguidaient d'eux-mêmes sur les objectifs alors qu'ils ne les avaient pas forcément vus. » Tout le monde se dit « Le pauvre homme, quand même, qu'est-ce qu'on est prêt à inventer quand on a subi les affres de la guerre ?»
J'ajoute que cette série, Les Brigades du Temps, est vraiment remarquable. Moi aussi, je l'avais découverte. C'était rigolo parce que ça mêlait presque l'Uchronie à l'histoire secrète. Mais comme effectivement, ils ne reviennent pas dans le même exactement. Enfin, ça avait un jeu très fin justement sur cette distinction. Ok, on continue. Je vois Jean-Jacques Régnier qui essaye de passer inaperçu, mais il finira par poser une question quand il sera prêt. Autre question. Oui, vous avez le micro ?
Moi, ça va s'éloigner peut-être un tout petit peu du cadre du guide, mais est-ce que vous savez comment se développe aujourd'hui l'enseignement par l'Uchronie ? Parce que c'est quelque chose qui commence à être assez présent, sauf erreur, notamment chez les Américains, ce qu'ils appellent l'alternative history, qui permet justement de faire réfléchir les gamins ou les moins gamins à l'histoire, comment elle se construit, etc., l'analyser. Alors, est-ce que c'est quelque chose... Je sais que dans les collèges, certains professeurs commencent à utiliser des romans, justement, uchroniques ou de la bande dessinée uchronique pour enseigner l'histoire. Est-ce que vous savez si, justement, c'est quelque chose qui se développe un peu partout et est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi, j'ai eu la surprise d'avoir en dédicace des professeurs qui venaient avec le guide qu'ils avaient acheté ou qui souhaitaient, en tout cas, connaître mieux l'Uchronie. Des professeurs d'histoire ou des professeurs de lettres, mais surtout des professeurs d'histoire, parce qu'ils m'ont dit textuellement qu'ils voulaient utiliser l'Uchronie pour travailler avec les élèves, pour rendre leurs cours beaucoup plus dynamiques. L'enseignement de l'histoire en France, bon, pour ceux qui ont des enfants, vous voyez, c'est un petit peu quand même mécanique, c'est un petit peu une ligne temporelle, on y pose des dates et on essaye de parfois trouver des causes et des effets, mais c'est pas aussi simple que ça. Et l'avantage de l'Uchronie, c'est que ça oblige aussi les élèves à réfléchir à pourquoi les choses se font et pourquoi les choses sont arrivées. Et c'est en train de... Moi, j'ai été très surprise d'avoir vraiment des profs qui venaient chercher des infos là-dessus, parce qu'il y a cette volonté de changer les choses, changer la manière dont on enseigne l'histoire. Après, ça reste... C'était des professeurs de collège, lycée, ça va pas plus haut. Je ne sais pas si dans les disciplines universitaires, c'est plus utilisé, mais oui.
Alors sur l'université, pour l'instant, l'université est toujours en retard. Hein. C'est sa raison d'être hein, un peu. Bon, voilà. Dans les disciplines universitaires, on utilise l'Uchronie. On commence à travailler sur des mémoires, sur des œuvres uchroniques. Et dans certains endroits, on commence notamment dans les IUFM, enfin les ex-IUFM, hein, sur la formation des maîtres justement des collèges et des écoles. On commence à utiliser l'Uchronie. Certaines personnes le font, comme Estelle Blanquet, qui est didacticienne à Nice et qui a organisé des journées d'études autour de l'histoire, dont notamment sur l'Uchronie, où les futurs enseignants sont formés à comprendre l'Uchronie et le rôle pédagogique qu'elle peut avoir. Donc à ma connaissance, l'Uchronie à l'université n'est pas encore tout à fait développée, sinon dans le cadre de master ou de thèse par exemple, pas encore dans l'enseignement des premières années, mais c'est en train de bouger aussi. Ouais. Autre question. J'aurais pas dû prononcer le mot université, merde. Bon, quand même. Alors, vous, c'est deux questions. Oui, c'est une bonne idée. Oui, mais sinon, je vais relancer moi. Mais autant que ce soit vous. Autant que ce soit vous, allons-y.
Alors, je suis curieux, mais s'il devait en rester qu'un ou qu'une d'Uchronie.
C'est quelle belle question. Alors, si on est dans un monde où il ne reste qu'une Uchronie, laquelle ?
C'est une dystopie, là, s'il n'en reste qu'une. Hein. C'est pas la peine. Non, c'est pas possible, une. C'est pas possible, là-dessus.
Elle essaye d'échapper à la réponse.
Alors, moi, je peux dire simplement, en termes d'Uchronie à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'Uchronie sur les périodes de guerre, parce que c'est des points de repère assez faciles, une culture générale assez partagée par tout le monde, donc tout va bien. La production, la majorité de la production, c'est autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est ce qu'il y a le plus. Moi, ce que j'aime personnellement dans l'Uchronie, c'est quand on va chercher des périodes moins connues, moins utilisées. Alors, par exemple, les conjurés de Florence, la Renaissance, la Révolution industrielle qui arrive bien avant la Révolution industrielle. Donc, qui arrive, Léonard de Vinci, un ingénieur, il trouve une source de propulsion et paf, toutes ces inventions peuvent exister et on n'a pas besoin d'attendre Breguet pour avoir le gyroplane. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui m'intéressent. Ou alors des fresques de grande ampleur. Chronique des années noires de Kim Stanley Robinson qui vous refait toute l'histoire du monde après avoir éradiqué l'Europe par la Grande Peste. Et donc on a la même trame temporelle, c'est-à-dire qu'on va quand même découvrir l'Amérique, on va quand même avoir deux guerres mondiales au XXe siècle, mais pas par les mêmes protagonistes. Voilà. Donc ce sont des fresques de grande ampleur qui m'intéressent aussi là-dessus. Autre uchronie hyper intéressante, Roland et Wagner, Rêve de gloire. Voilà. Sur des périodes moins connues, et là c'est plus intéressant. Je pense que ce qui fait l'intérêt de l'Uchronie aussi, c'est d'aller chercher des périodes qui sont peut-être moins connues, peut-être moins investiguées aussi. Et là on a des choses beaucoup plus originales et beaucoup plus stimulantes, je trouve.
Alors Bertrand, s'il ne devait en rester qu'une.
Un pied de nez, Premier Empire de Francis Carsac, qui m'avait marqué, qui est une très très belle nouvelle de SF, qui rend aussi hommage à sa manière... À l'Uchronie, ça se situe dans un futur indéterminé où on a perdu finalement toute trace de l'histoire. Et lors de fouilles archéologiques, on tombe sur ce qu'on pensait des découvertes du passé. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit qu'ils sont juste tombés sur des bibliothèques de fans de SF. Donc pour eux, ils sont persuadés qu'on a découvert la vitesse supraluminique, des vaisseaux qui allaient jusqu'à l'autre bout de la galaxie. Enfin, tout un tas de trucs. Et la chute de la nouvelle est magnifique parce qu'elle est d'un optimisme fantastique. C'est vraiment deux personnages qui papotent. Et quelque part, oui, je dirais, quand on y regarde, ça change un peu. Parce que souvent, les uchronies, comme l'a dit Karine, c'est la guerre, c'est très sombre. Personne n'a envie de se retrouver dans une uchronie. Enfin, j'allais dire, dans un monde où les nazis auraient gagné la guerre. Ça peut être très... très ambigu. Il y a une très belle série uchronique en manga qui s'appelle Jin, où c'est un médecin qui est projeté en fait au milieu du 19e siècle dans le Japon et qui va révolutionner en fait, qui va introduire beaucoup plus tôt des découvertes médicales. Il va introduire la pénicilline, il va faire des opérations qu'on pensait impossibles. Et quand on y regarde, en fait, c'est à la fois c'est un voyage dans le temps, c'est une uchronie et c'est surtout une formidable œuvre pour expliquer aux Japonais que non, finalement, c'était pas si bien que ça auparavant, que les gens mouraient plus à cause des maladies, à cause des problèmes de nourriture et que la situation politique était tellement instable qu'en plus, entre les guerres, les épidémies, les incendies et le reste, on avait le temps de crever 30 fois avant d'atteindre 30 ans et ne parlons même pas du nombre de gosses qu'ils enterraient. Donc c'est à chaque fois, oui, c'est pas joyeux. Il y a le... Il y a le popis républicain qui est forcément très sympa.
On s'est déjà arrangé au niveau financier, donc c'est pas la peine d'en faire plus. Moi, j'aurais répondu qu'il y a l'Uchronie, s'il devait en rester qu'une, ce serait celle qui n'est pas encore écrite. Celle qui raconterait un monde sans Uchronie, dans laquelle deux auteurs talentueux écrivent un guide qui raconte un monde où toutes les Uchronies existent et qui en font la liste. Et là, vraiment, comme ça, on serait sauvés. Voilà. Alors, ensuite, qui a d'autres questions? Ah, bah voilà, je savais que ça finirait comme ça. Mesdames et messieurs, méfiez-vous. Cet individu est uchronique et il va poser une question.
Mais j'espère bien que ça ne va pas finir comme ça.
Allons-y. Non, non, ce n'est pas fini. Non, moi, non, s'en fous, on a encore tout notre temps.
Deux choses. J'avais écrit une uchronie il y a longtemps où le pharaon Pépi Ier, au lieu de mourir, comme chacun sait, en 2325 avant Jésus-Christ, mourait en 2310 avant Jésus-Christ. Et effectivement, toute l'histoire de l'Égypte en était bouleversée. C'était absolument passionnant. Alors le problème, c'est que ni vous ni moi ne savons ce qui s'est effectivement passé du temps du règne de Pépi Ier. Alors j'exagère pour montrer qu'effectivement, il y a de temps en temps des divergences temporelles.
Bien devant le micro, on t'entend pas bien.
Il y a des divergences temporelles qui se passent dans des endroits qu'on connaît si peu, enfin plutôt des époques qu'on connaît si peu, qu'on n'y voit pas trop l'intérêt parce que la divergence est avec une réalité qu'on ne connaît soi-même pas, donc on la voit même pas. Voilà. Donc ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps, on est un peu désarçonné.
Donc ça veut dire que l'Uchronie est toujours rapport à une culture, forcément à un champ culturel. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme une Uchronie de rayonnement universel? Une Uchronie perceptible et compréhensible par tous, quelle que soit la culture ou l'époque?
Pour qu'il y ait une uchronie qui soit effectivement perceptible par tous, il faut des points marquants. Forcément, la Seconde Guerre mondiale, elle était mondiale. Forcément, tout le monde a ce point de repère-là. Après, plus on remonte loin dans le temps, plus c'est compliqué. On m'a posé tout à l'heure la question de savoir s'il y avait une uchronie préhistorique. Et effectivement, j'ai retrouvé une uchronie préhistorique dans Divergence 001, collection Uchronie Flammarion, Jean-Marc Ligny. Avec les Néandertals et Cro-Magnon. Le problème étant qu'on peut très bien faire passer ça pour une histoire de science-fiction classique parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On est sur des échelles de temps tellement, tellement lointaines et tellement immenses qu'on a un petit peu plus de mal à trouver. Il y a une question dans le public, là. Là j'ai parlé de préhistoire et...
Allons-y. Ah, il n'y a pas de question.
Donc effectivement, il faut effectivement une culture. Il faut une culture historique pour l'apercevoir. C'est sûr. À moins. Alors après, il y a aussi une chose, c'est que pour avoir une uchronie, il faut qu'il y ait un impact sur l'histoire. C'est-à-dire, on va reprendre la phrase si le nez de Cléopâtre était plus court, la face du monde en aurait été changée. D'accord. Si le nez de Cléopâtre est plus court, il se passe quoi? Clairement. Est-ce que deux hommes se battent encore pour elle? Oui ou non? Voilà. C'est ça aussi, c'est qu'il faut à un moment donné qu'il y ait un impact sur l'histoire. Si aujourd'hui on a une conférence sur l'Uchronie, s'il n'y avait pas eu cette conférence sur l'Uchronie, quel impact on aurait eu sur l'histoire? Aucun.
Donc, sur l'histoire des utopiales, on aurait eu un impact.
Un tout petit. Il y aurait eu autre chose.
Ça dépend, c'est pas encore fini.
C'est pas encore fini, voilà. C'est vrai. Mais donc, il faut que ça change l'histoire. Si ça ne change pas l'histoire, c'est un peu compliqué de voir une uchronie. Quoi.
En fait, ça revient à dire que la narration du mode uchronique doit être aussi dans le sens dynamique d'une narration de type fiction. Donc, ça veut dire qu'on revient sur la toute première question qui avait été posée, je crois que c'était par monsieur là-haut, sur le fait que l'uchronie aujourd'hui est intégrée dans les codes de la science-fiction, ou en tout cas dans les codes narratifs de la science-fiction, et que ce qu'attendent les gens en lisant une uchronie, c'est pas simplement une réflexion savante, érudite sur l'histoire et éventuellement l'histoire militaire, sur ce qui aurait pu se passer si tel ou tel mécanisme ou tel ou tel appareil technique aurait été différent, mais un vrai récit avec des rebondissements et une narration dynamique comme on trouve aujourd'hui dans la plupart des récits de science-fiction. Donc ça veut dire que l'Uchronie sait aussi s'adapter aux formes narratives de son époque. Et finalement, la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi aujourd'hui la forme narrative de l'Uchronie, c'est celle qui correspond à la science-fiction? Est-ce que c'est pourquoi, par exemple, il n'y aurait pas d'Uchronie dans le polar? Ou il y en a, bien sûr, mais en tout cas, pourquoi il y en a moins? Voilà, pourquoi la science-fiction?
Alors techniquement, à l'origine, l'uchronie, comme je le dis, c'est, on va pasticher la formule du steampunk, c'est une blague de potache entre universitaires. On s'amuse à changer un petit événement, histoire de briller quelque peu, ça dure 4-5 lignes dans un essai, c'est uniquement une blague à destination des copains. Et ensuite, on évacue la question. Petit à petit, on a dépassé les 5 lignes. Ça a pu devenir un paragraphe ou autre. Puis, on est passé carrément à des essais extrêmement sérieux. Eric Henriem a parlé de cas d'essais économiques sur et si les États-Unis n'avaient pas développé du tout de chemin de fer, comment leur économie serait construite. Donc il y a eu un énorme essai qui quantifie des tonnes de chiffres. On dit qu'ils auraient peut-être organisé le truc avec des transports fluviaux. Donc les villes n'auraient pas été implantées au même endroit. L'économie n'aurait pas été la même. J'imagine qu'ils auraient eu recours à l'esclavage, mais d'une autre manière, et ainsi de suite. Et là, on tombe sur un truc clairement pour des spécialistes qui jouent à se faire plaisir. Alors, en plus, techniquement, si j'ai bien compris, il existe aussi une science économique où on étudie, mais à contre-courant, les crashs boursiers pour essayer de voir finalement, si on avait introduit ceci ou fait cela, qu'est-ce que ça aurait changé ? Est-ce qu'on aurait pu impacter de manière positive ou pas l'évolution finalement du cours de la bourse ? Mais là, c'est clairement pour des spécialistes. Petit à petit, et dire l'enfant terrible qui est l'Uchronique, nous classons, je dirais, par défaut comme genre, mais qu'on qualifie plutôt de moyen, a basculé dans d'autres moyens d'expression. Et je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, on est revenu finalement à la forme première qu'étaient les deux premiers romans, c'est-à-dire une espèce de mixte entre un essai et un roman d'aventure. Et on l'a accentué. Et là, SF, en fait, s'en est emparé parce que c'est dit, il y a quelque chose. Si j'étais en forme, je dirais bien, c'est une blague de potache à l'encontre du cyberpunk. Vu qu'on s'amuse à imaginer un futur vachement sombre, elle est coco, on n'a pas besoin de se prendre la tête, il suffit d'imaginer quelque chose dans le passé, on le change en encore pire. Et puis voilà, c'est un genre qui est multigenre, qui a réussi à bondir partout. Faverland est un polar uchronique. Les Anglaises aiment se faire peur en écrivant des polars situant dans une Angleterre où au mieux ils ont fait une PC pareille avec les nazis et du coup se fascisent de plus en plus, comme Joe Walton avec sa trilogie du cercle de Farthing, où ils ont été envahis en 40 après que nous ayons perdu, comme dans SSGB de Len Defton, qui était un spécialiste du polar anglais. D'autres peuvent introduire un minuscule événement uchronique mais qui va modifier toute l'histoire d'un pays, comme Sauvogue de Cédric Ferrand, où on se situe dans un futur, un rétro-futur même, je dirais, où il existe des voitures volantes. Et quand on regarde le truc, l'Uchronie est expliquée en deux lignes, en plein milieu du roman, si vous ne faites pas attention, ça vous passe littéralement sous le nez. Après, on peut même se gratter la tête en se disant, comme point divergent, j'ai connu mieux. Mais ça n'enlève rien, justement, au souffle épique du roman. On peut s'amuser aussi à pasticher les romans de KPDP. Jean-Luc Marcastel s'amuse à mettre en scène des extraterrestres qui débarquent, qui foutent une raclée monumentale à la majorité des royaumes terrestres, vu qu'ils interviennent sous Louis XIII, avant de se faire liquider par d'autres extraterrestres qui, du coup, apparaissent comme des sauveurs et vont devenir, entre guillemets, des espèces d'archanges de lumière, etc. Donc ensuite, vous tombez sur un roman de KPDP avec D'Artagnan qui manie une épée laser, des cités flottantes, etc. Là, je dirais, c'est du Steam Star Wars. Et plus on avance, plus on se rend compte que le truc, effectivement, c'est de s'amuser. C'est pas de... Le point de divergence, j'allais dire, on devient moins sérieux. On se dit qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Et je repasse le micro à mes camarades.
Donc là, on est allé d'un extrême, c'est-à-dire on est parti de Titeliv jusqu'à Star Wars avec des sabres laser à la vapeur. Donc c'est quand même vaste comme champ. Donc Karine.
Donc, les auteurs de science-fiction, ce qu'ils aiment faire, c'est spéculer. Spéculer sur des futurs possibles, spéculer sur notre société, spéculer sur ce que nous allons devenir en fonction de ce que nous sommes et des choix que nous faisons. L'Uchronie, c'est un procédé qui permet justement cette spéculation et qui ouvre un champ des possibles extraordinaire. C'est pour ça qu'ils s'en sont emparés et qu'ils l'utilisent, mais à fond, du fond, du fond. Et la deuxième, moi, ce qui me fait dire, c'est le sense of wonder. En fait, c'est un outil qui peut apporter du sense of wonder, si j'arrive à le dire. Et l'écrivain de science-fiction l'ont vu, l'ont compris, et du coup se l'approprient. Ils sont intelligents dans le sens où ils ont récupéré un procédé qu'ils savent pouvoir en décupler les effets, et c'est pour ça qu'ils se l'approprient, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien, parce que c'est ni plus ni moins que du what if, et le what if, c'est exactement le cœur de la science-fiction. Et l'Uchronie, c'est ça. Donc c'est le même cœur qui bat entre les deux.
Très bien, j'aime bien ça, cette idée de cœur partagé, c'est très beau. Alors je voulais, j'avais des tas de questions, mais d'abord la parole toujours à vous. Donc vous, c'est interdit, infini de questions, ça suffit. Alors allons-y, oui. S'il y a le micro qui arrive jusqu'à vous, voilà.
C'est lui qui va au micro.
Merci. La question c'était pourquoi le roman et la science-fiction semblent s'être emparés de la forme de l'Uchronie. Et une des raisons, effectivement, que tu as très bien dit, c'est le What If, le Sense of Wonder. Mais l'autre aussi, c'est parce que la science-fiction correspondait à, d'une certaine manière, un peu sérieuse, pour essayer d'imaginer justement l'avenir de l'homme dans l'espace ou pas. Et comme tout échoue, le réel ne propose pas d'espoir, finalement, on se réfugie dans un imaginaire encore plus alternatif. Et puisque, comme tu disais, on peut tout recréer en imaginant un point de divergence, on voit bien que là, on ne va pas forcément réussir à aller dans l'espace, on ne va pas forcément réussir à échapper aux cataclysmes écologiques, etc. Alors, comme la science-fiction se projette surtout dans l'avenir, ça semble mal barré. Du coup, on se réfugie dans l'imaginaire, entre guillemets, pur, où là, effectivement, tout est possible. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait un autre truc dans le passé? Là, on peut dévider toute une autre humanité, d'autres sociétés, d'autres civilisations, d'autres avenirs aussi. Et du coup, on peut réintégrer la science-fiction à l'intérieur de l'Uchronie, puisque la science-fiction, se dit qu'elle ne va pas réussir à proposer des visions plausibles de ce qui pourrait advenir sans que tout le monde crève ou devienne, je ne sais pas, des zombies ou je ne sais quoi. C'est une sorte de renoncement, quelque part, à transformer la réalité par la littérature pour ne plus garder que le plaisir de l'imaginaire et du jeu intellectuel et de la réécriture du fictionnel, quoi.
Mais c'est aussi une réponse à tout ce courant dystopique où l'avenir est noir, tout est noir. On a perdu l'espoir. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait quand même la conquête spatiale, alors l'exploration spatiale, on avait beaucoup d'espoir, on allait essaimer dans la galaxie, on allait sortir de notre berceau, et tout ça s'est arrêté. On a le réchauffement climatique, on a des choses très très noires et un avenir très sombre qui se profile. Et effectivement, rêver le passé et changer aussi notre futur par le biais du chronisme, c'est réintroduire un peu d'optimisme aussi et d'espoir. Hein. Donc,
je suis d'accord avec Karine et pas d'accord avec toi du tout. C'est que moi, au contraire, je pense que l'Uchronie, c'est pas une démission, c'est une réactivation de la capacité à penser l'altérité. C'est-à-dire, au lieu de se dire, voilà, comme tu l'as dit, on va dans l'Uchronie parce que le présent n'aura qu'une direction. Au contraire, avant de réaliser quelque chose, il faut d'abord pouvoir le penser. Donc rendre les futurs alternatives pensables, c'est les rendre réalisables. Et si pour faire ça, il faut faire un retour en arrière en passant par le voie de l'Uchronie, c'est bien pour qu'on se réapproprie la capacité à penser les changements qui peuvent advenir dans le monde. Et puisqu'on refuse de les penser dans le monde réel, eh bien on les pense par l'Uchronie. Du coup, on réactive la capacité de changer par la pensée. Le discours est créateur, hein, disaient les premiers penseurs grecs. Hein. Et donc, si le discours est créateur, il est créateur de notre capacité à changer le monde. Donc, l'Uchronie, c'est une forme de résistance, en fait. Ouais, c'est exactement le contraire d'une démission.
Il n'y a pas tant d'Uchronie, on va dire, futuriste, finalement. Si on regarde, il y a quand même beaucoup d'Uchronie qui se projette dans le passé et qui y reste. C'est-à-dire qu'on fait un point de divergence et après, on réécrit le passé. Donc, c'est quand même aussi symptomatique parce que, quelque part, du coup, ça nous rapproche un petit peu de la fantasy, dans une optique, entre guillemets, passéiste. Après, si effectivement la science-fiction réinvestit vraiment l'Uchronie comme champ d'investigation vers le futur, pourquoi pas? Et tu as raison, de ce point de vue-là. Ouais.
Alors, on va donner, il nous reste encore peut-être une question et puis le mot de la fin à nos deux auteurs. Alors, allez-y, monsieur, puisqu'on a commencé avec vous, finalement. C'est très cohérent qu'on finisse avec vous, puis après, on leur laissera le mot de la fin.
C'est très gentil, merci. Est-ce que vous rangez dans l'Uchronie ce que j'appellerais les Uchronies personnelles de type Ripley de Grimwood ou à la rigueur le Un jour sans fin, le film d'Harold Ramis qui est prodigieux, mais est-ce que c'est une Uchronie pour vous?
Alors, les Uchronies personnelles, oui, ce sont des Uchronies. À partir du moment où vous changez quelque chose dans votre histoire et que vous réécrivez votre propre histoire, c'est de l'Uchronie. Un jour sans fin, c'est plus une boucle temporelle, mais après, on rentre dans des détails, on ne va pas rentrer dans les détails et les querelles de boutiquier. Une boucle temporelle, c'est une journée que vous revivez en permanence, jusqu'à ce que vous puissiez casser la boucle temporelle et revenir dans votre réalité, en fait, là-dessus. Hein. Mais oui, effectivement, l'Uchronie personnelle, c'est une Uchronie. C'est plus une Uchronie nostalgique, souvent, puisque c'est de se poser la question quel choix j'aurais fait, et si je pouvais recommencer, quel choix je ferais. Et ça permet aussi de philosopher sur sa propre vie et d'accepter son propre passé, ou de construire un autre futur.
Pas mieux.
Voilà, vous avez votre réponse bien claire. Alors, on va vous laisser le mot de la fin aux deux auteurs. Donc, voilà, dites ce que vous voulez sur l'Uchronie. Peut-être pour convaincre ceux qui ne seraient pas encore convaincus de la pratiquer comme une gymnastique spirituelle de bon aloi. Ou voilà, ce que vous voulez. Allez-y.
Alors, moi, j'ai juste tendance à dire que l'Uchronie, c'est aussi un outil pour philosopher sur sa propre vie et philosopher tout court. C'est un outil qui aide à penser. Donc, ne vous interdisez pas de penser. Utilisez-la, lisez-la, faites ce que vous voulez, adoptez-la, mais pensez. Pensez votre futur, pensez votre passé, pensez votre vie et faites vos choix, quoi. C'est un outil qui vous aide au choix. Donc, changez votre vie si vous en avez envie, mais faites vos choix.
Perso, comme je le dis toujours, le terme uchronie signifie pas forcément grand chose quand on en parle avec quelqu'un. L'une de mes blagues favorites au début, c'était déclarer quand on me disait qu'est-ce que l'uchronie, c'était de répondre c'est du polar suédois. Là, techniquement, dans un monde parallèle, c'est peut-être certainement vrai. Pour moi, la formule est si, quand j'ai vraiment étudié l'uchronie, et si, le what if, comme ils le disent à l'américaine, a permis d'introduire une notion de rêverie. L'étudiant en histoire que j'étais s'est rendu compte que finalement c'était moins aride, c'était moins gravé dans le marbre que ce qu'on pouvait croire, et que le champ des possibles était nettement plus large que ce qu'on pouvait imaginer. Ensuite, mon dada, ce vers quoi finalement je me tourne de plus en plus, c'est, comme vous le disiez, l'uchronie personnelle. Moi, j'en ai toujours une que je cite à tout bout de champ qui s'appelle L'échange de d'Alan Brenner. Où c'est deux personnes qui se rencontrent un soir de pluie alors qu'elles sont en train de déprimer. Et il se trouve que c'est la même personne, mais qui a fait un choix qui a changé sa vie. La première est devenue acteur de théâtre à New York, mais a sacrifié toute sa vie pour ça. L'autre est restée dans sa petite ville, a épousé quelqu'un, a eu un enfant. Et en fait, les deux décident d'échanger leur vie. Celui qui est dans la petite ville a toujours crève littéralement de jalousie parce qu'il estimait qu'il avait des capacités pour pouvoir jouer, pour pouvoir monter sur les planches, tandis que l'autre s'est toujours dit qu'il aurait bien voulu fonder une famille, s'occuper de son enfant et ainsi de suite. Et vous suivez finalement en parallèle les vies des deux personnages, et c'est délicieux. Ça, l'Uchronie, c'est aussi ça. C'est pas une grande histoire finalement ou beaucoup de batailles ou autre. Voilà. Et puis surtout, il y a une dernière chose. Merci d'être venu.
Merci, très bien. Bonne continuation dans cette réalité ou dans une autre. Merci.
Et merci à vous.